Seigneur Jésus, toi qui es parole de Dieu, merci de toucher nos vies par ton esprit. Merci de révéler une parole vivante dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos intelligences. Merci parce qu'elle marque, parce qu'elle dirige nos vies. Amen. Il y a quelques semaines, on a démarré toute une réflexion, méditation sur ce que c'est qu'être un adorateur en esprit et en vérité. Là aussi, hein, ça peut être assez évanescent, ça veut dire quoi ? Adorer Dieu en esprit et en vérité. On a vu que c'est Dieu lui-même qui nous attire à lui. De nous-mêmes, nous sommes incapables de rencontrer Dieu. Seul un travail de l'esprit, depuis bien avant qu'on le connaisse, nous attire à lui. Beaucoup de textes dans l'Écriture peuvent nous servir de parcours, de prière pour rencontrer Dieu en esprit en vérité. Le psaume 23, le Notre Père, des textes même dans l'Apocalypse, des textes dans les psaumes, voilà, ça peut... Je parlais, moi, le texte qui a marqué ma vie, c'est Ésaïe 6, trois pas. Le premier, c'est d'entrer dans la présence de Dieu par des louanges. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Il siège au milieu de mes louanges. Et donc, c'est quelque chose que ma génération a appris à entretenir pour développer cette vie dans l'esprit. Premier pas, entrer dans cette présence de Dieu par la louange. La deuxième, c'est cette purification. J'aimerais reprendre ce texte de Ésaïe 6. On peut le vivre par étapes, chaque étape est intéressante. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements. Par la voix qui retentissait, la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevé, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Je crois que ce matin, il était question de dire oui. Trois pas pour entrer, vivre un temps dans la présence de Dieu, entrer avec nos louanges, notre adoration. Cette rencontre de sainteté, de purification, on va voir, on va parler de dépouillement et de revêtement. Un mot m'a accompagné et m'accompagne encore aujourd'hui, malheur à moi. Je le prends au sérieux dans ma vie. Malheur à moi si je dis n'importe quoi, malheur à moi si dans mon attitude, dans ce que je suis, je ne rends pas gloire à Dieu. Avec les années, les choses peuvent perdre de leur intensité, de leur sainteté, de leur honnêteté. C'était question de ça ce matin. Honnêteté, vérité, sincérité. Malheur à moi, Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Les premiers hommes au jardin d'Éden, à un moment donné, pareil, on fait « Oups !» Il y a comme un problème. Genèse, chapitre 3, les versets 7 à 10. « Alors les yeux de l'un à l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. » Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, lui dit « Où es-tu ?» Il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris ?» Que tu es nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Réaction humaine à la présence de Dieu, qui que nous soyons, quelle que soit la nature sociale, les titres, c'est valable pour tout le monde, du plus grand au plus petit. Malheur à moi, mes yeux ont vu l'Éternel des armées. Je vous défie de rester dans le face-à-face entre quatre yeux avec l'Éternel Dieu des armées sans m'en dire « Oups !» Il y a comme un problème. Comment est-ce qu'il va me tendre la main ? Quelle va être sa réaction avec moi ? J'essaie de garder cela toujours présent dans ma vie. Qui t'a appris que tu t'es... C'est instinctif. Hein. Devant Dieu, à un moment donné, on se dit « Waouh ! Qu'est-ce que je pèse ? C'est quoi le poids de ma vie ?» Qu'est-ce que je suis ? Tous les hommes de Dieu, femmes de Dieu, tout le monde a vécu ces moments de solitude, de remise en question, où on se dit « Oups !» Un homme que j'aime beaucoup, Ruben Sayens, a vécu des années dans une dépression profonde. Parce que chaque fois qu'il venait devant Dieu, il disait mais qui je suis ? Qui je suis pour être évangéliste, pour toucher les gens, pour développer la parole de Dieu, tout ça. Et puis il a fallu qu'il fasse cette rencontre plus profonde dans ce dépouillement de ce qu'il était. Voilà, d'avoir cette assurance que l'Esprit Saint allait le remonter, l'accompagner, le revêtir. Et puis son ministère a repris un développement extraordinaire. Malheur à moi. Ça touche tous les hommes. Grands, petits. Romains 7. Heureusement qu'on a ces textes qui nous sont laissés de ces moments de descente en nous-mêmes. Romains 7, 24. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 7, 8, cette expérience profonde de l'apôtre Paul qui dit, voilà, je suis tellement zélé pour Dieu, mais je m'aperçois que mon zèle, non seulement il est imparfait, mais parfois il peut être une occasion de chute. J'ai de la peine, ça va... Comment dire oui, non, oui à quoi, non à quoi. Et puis, quand je veux faire le bien, je m'aperçois que souvent, ça ne marche pas bien. ça marche pas bien. Misérable qui je suis, malheur à moi. Mes yeux ont vu. Je parle le Christ Jésus, ressuscité. Dans sa gloire, qui est suffisant pour ces choses. Je vous propose une lecture dans le livre d'Ézéchiel. On va lire l'écriture ensemble. C'est bien de lire l'écriture ensemble et pas toujours les mêmes textes. Dans Ézéchiel 16, un texte qui m'interpelle depuis des années, les versets 7 à 14. Je t'ai multiplié par 10 000 000, comme l'herbe des champs. Tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins te formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, voici. Le temps était là. Le temps des amours, j'étendis sur toi les pans de ma robe, je découvris ta nudité. Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau et fis disparaître le sang qui était sur toi, je t'oignis avec de l'huile, je te donnai des vêtements brodés, des chaussures de peau teintées en bleu, je te ceignis de fin lin, te couvris de soie, je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à ton oreille, à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. Tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée, de fleurs de farine, de miel furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie dans mon royaume. Ta renommée se répandit parmi les nations. Je vous laisse lire la suite chez vous. Je ne vais pas la lire. C'est un texte qui est universel, qui nous dit comment Dieu nous a rencontrés, nus dans notre sang, c'est-à-dire le jour de notre naissance, pas lavés, mais avec un projet. Je fis alliance avec toi, avec des vêtements, de la nourriture, une beauté parfaite. C'est un défi pour chacun d'entre nous. Je me dis souvent le matin, quand je me peigne, Seigneur, je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139. C'est difficile à dire parfois. Correspondre à deux expériences dans nos vies. Une expérience de dépouillement, une expérience de revêtement. Le plus difficile, c'est le dépouillement. Malheur à moi, être nu devant Dieu, sans tout mon bazar qu'il y a dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon intelligence, sans mes œuvres. En même temps, je suis une créature merveilleuse, puis en même temps, voilà, Seigneur, qu'est-ce que je vais t'apporter? Sinon ma nudité, mon dépouillement, mon être imparfait, On verra tout à l'heure, c'est des périodes un petit peu parfois redoutables. La passion du Christ a été quelque chose de terrible. On lui a tiré ses vêtements, on lui a mis une couronne, on l'a flagellé. C'est un dépouillement. C'est toi le roi des Juifs. C'est toi le Messie, celui qui devait venir. Regarde qui tu es maintenant. Jésus dit, c'est toi qui le dis, moi je il ne s'est pas défendu. Ésaïe 53. Comme un agneau, il est allé sur la croix. Il s'est dépouillé de sa divinité. Ses mains, ses pieds, son côté a été percé. Je t'ai vu dans ta nudité, dans ton sein. 3 jours après, il est ressuscité. 2 Corinthiens 5, 3, on va lire comme ça, égrené des textes, peut-être qu'on ne lit pas tous les jours. 2 Corinthiens 5, 3, 5. Verset 2. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné aussi les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours plein de... Rencontrer Dieu, c'est deux faces. C'est accepter le dépouillement et c'est laisser monter en nous l'envie de revêtir quelque chose de nouveau. La vie éternelle. Un domicile céleste. Un nouveau lieu. Abandonner l'état d'esprit du monde. Se dire comment est-ce que je peux être dans ce monde avec un état d'esprit, une intelligence renouvelée. Pouvoir mettre nos ressentis, nos sentiments, nos émotions, pouvoir les mettre de côté, puis dire voilà, Seigneur, je me présente devant toi, nu dans mon sang. Viens et prends ma vie. Ce matin, il était question de oui. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Mais pour se vêtir, il faut accepter la nudité. C'est les deux passages. Ésaïe 53, c'est l'agneau de Dieu, le serviteur souffrant. On lit dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Qui est Jésus aujourd'hui ? Dans le ciel. Avant Apocalypse 3. Toujours dans cette idée de lire ces textes. Sur ce dépouillement, Apocalypse 3, verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends tout ce que j'aime et donc du zèle et retourne à toi. » C'est une des 7 lettres aux églises qui s'applique aussi aux églises de tous les temps. Bien peser les choses quand nous sommes en face à face avec Dieu. Bien peser les choses. De quoi est-ce que l'on se prévaut ? Tout ce que l'on est, tout ce que l'on a fait. Des titres. Aujourd'hui, dans les médias, quand on présente quelqu'un, on donne tous ses titres, universitaires, etc., etc. Parce que tu te présentes à moi avec le poids de tout ce que tu es, tu penses que ça peut être quelque chose. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Il vaut mieux se dépouiller soi-même, volontairement. C'est plus ou moins facile, selon notre éducation, notre passé, notre ce que l'on est, puis l'image que l'on a de soi-même. Je dis en même temps, moi, voilà, c'était dans quelque chose de pas facile à vivre, et puis en même temps, quelque chose d'extraordinaire que de venir de pas grand-chose. Comme ça, il n'y a pas grand-chose à présenter devant Dieu, sinon une vie très, très démolie. Marcher avec Dieu de la bonne manière pendant des années, puis à partir de 86, partir sur des chemins qui n'étaient pas dans la vocation de Dieu pour moi. Avec une descente, une perte, une 86-92, une parenthèse où j'ai perdu, je suis parti dans les marécages. Et puis, se rendre compte que là, j'ai perdu, Serge, j'ai perdu une église, j'ai perdu un statut, j'ai perdu beaucoup de choses. Je sais que je suis pauvre, aveugle et nu. Seigneur, est-ce qu'on peut repartir à zéro? Et puis recevoir cette inspiration pendant que je travaillais. Lève-toi, va voir Jean-Marc, repars à zéro. Des années de reconstruction. C'est pas revenu comme ça tout seul. Donc ça fait une période pratiquement 6 et 6, pratiquement une période de 12 ans. Entre des moments où je choisis un mauvais chemin, puis des moments où il faut reconstruire, retrouver la confiance, retrouver l'appel, retrouver la vocation. Je t'ai vu, nu dans ton sein. Puis je te dis, viens, je vais t'habiller, je vais te... Une des expériences fondatrices dans ma vie, c'est Zacharie 3, avec ce sacrificateur qui est devant Dieu à Jérusalem et Satan qui est à sa droite pour l'accuser. Les moments de dépouillement sont des moments de fragilité, de faiblesse, vulnérabilité. C'est un mot qu'il nous faut apprendre à connaître. Père Céleste, Seigneur Jésus, Esprit du Dieu vivant, voilà, je suis devant toi, pauvre, aveugle, nu, misérable, dépouillé. De quoi pourrais-je me vanter? Qu'est-ce que j'ai à te présenter, sinon ce que je suis sans toi? Voilà, prends ma vie. Au travers de ce que je suis, je te dis oui. Avec mes forces, mes faiblesses, mes moments difficiles, mais Apocalypse chapitre 1, verset 13, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'air ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses genoux comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Pouvoir rencontrer le serviteur souffrant, l'agneau de Dieu, faire cette rencontre aussi avec le lion de Juda. Celui qui est à droite du Père dans la gloire, qui est res resplendissant de gloire et qui va revenir. Tous les êtres humains qui ont fait des rencontres vraies, réelles, avec le Dieu vivant, pratiquement tous ont dit malheur à moi. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Josué, que ce soit Gédéon, Manoac, le père de Samson, ces hommes ont rencontré l'ange de l'Éternel. Et tous ont dit, malheur à moi, je suis mort. Je suis un homme mort. J'ai touché une ligne à haute tension, où je suis en présence d'une ligne à haute tension. J'ai remarqué depuis beaucoup d'années, quand on parle de l'œuvre de Dieu, de l'Église, de la sainteté de Dieu, c'est une ligne à haute tension. Il vaut mieux être modéré dans ses jugements, dans ce que l'on dit. C'est un apprentissage. En parler de l'œuvre de Dieu, on parle de quelque chose d'une ligne à haute tension. Comment est-ce que l'on peut apprivoiser cette présence de Dieu, Dieu est esprit et vérité? Comment la confrontation avec cette vérité? Après le malheureux que je suis de Paul dans Romains 7, il y a Romains 8. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont sous la loi de l'esprit de vie. La loi de la mort est passée. Un revêtement. On a parlé de dépouillement, de nudité. On partage un texte dans Éphésiens 5, les versets 25 à 27. Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte, irréprochable. Rappelez le texte d'Ézéchiel, c'est ce que Dieu dit à Israël. Je t'ai vu là dans un champ, nu, j'ai fait alliance avec toi. Et puis voilà, je t'ai mis plein de vêtements, je t'ai donné de la bonne nourriture. C'est pareil pour la vie, c'est pareil pour l'église. Sur la croix, Jésus a vu l'Église telle qu'elle allait être durant les siècles. Sans tache ni ride, glorieuse, ni rien de semblable. Il ne s'agit pas seulement de notre propre vie. Il s'agit de l'Église du Dieu vivant. Si j'en fais partie, c'est bien. Ce texte s'applique aussi pour moi, en la lavant par l'eau de la parole. Je ne sais pas, les générations à venir, là, les plus jeunes parmi nous, quelle place va prendre dans leur vie l'écriture. On est au-delà des réseaux sociaux, de tout ce que la technologie, le rapport au texte, on en a parlé il y a quelques mois, pas seulement au texte, mais qu'il devienne parole vivante. Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Comment est-ce que dans l'adoration, dans le face-à-face, je peux me laisser transformer par la parole de Dieu? Deux textes, et puis je vais terminer là. Un texte pareil, vous avez peut-être pas lu beaucoup, c'est dans le prophète Sophonie. Au chapitre 3, les versets 9 à 10. « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, etc., etc. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des lèvres pures parmi les peuples, parmi les nations, pour invoquer le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. C'est l'Église. Ils étaient d'un commun accord dans la prière, dans la communion fraternelle. Je termine avec Hébreux 13, 15. Voilà, on aura lu l'Écriture ensemble. Et puis, voilà, que ces choses nous accompagnent. Ce n'est pas forcément les... Ce n'est pas l'évangile de la prospérité, mais c'est aussi la vérité. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. N'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Pouvoir dans le recueillement, chacune de nos vies, descendre en nous-mêmes et dire, voilà, Seigneur, je t'offre. On l'a entendu ce matin d'une manière vraie, honnête, sincère. Je t'offre le fruit de lèvres qui confesse ton nom, le nom de Jésus, ce nom éternel, ce nom de celui qui est sauveur. Amen.